France Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir sur la présidentielle française à 13 jours du premier tour. L'opinion et les intentions de vote sont encore marquées par une volatilité extrême, comme si cette élection allait se jouer au mieux dans les quelques jours qui viennent, peut-être le jour J dans l'isoloir. Cette incertitude, il faut le dire, elle est au cœur de la démocratie et bien des scrutins récents nous rappellent que les sondages ne sont plus prédictifs et que les électeurs usent pleinement de leur liberté. Voilà pour le paysage d'ensemble. Intervenez, amis auditeurs, ce soir sur tous les sujets qui vous intéressent, à gauche, à droite, au centre, aux extrêmes. Dites-nous également si votre choix est fait ou si vous attendez encore pour vous déterminer. Et si c'est le cas, vous attendez quoi? Toutes vos questions jusqu'à 20h.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Twitter avec le mot-clé Telson, franceinter.fr et le 01 45 24 7000 pour le standard. Bonsoir Yves.
Bonsoir.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Bien, écoutez, avec votre préambule, ça tombe à pic, puisque moi, ma question, elle porte justement sur ces sondages qui, vous l'avez dit, ne sont plus prédictifs, donc qui laissent de la liberté aux électeurs. Non, je suis pas vraiment d'accord, parce que du coup, comme ils sont plus prédictifs, moi, j'ai l'impression, sur cette élection, de me faire un petit peu voler mon vote.
Par quoi? Par qui, Yves?
Les sondages donc ne donnent pas forcément un reflet de la réalité. Bon, on le sait un petit peu, mais on pensait que Trump ne passerait pas, il est passé. On pensait que le Brexit ne passerait pas, il est passé. Donc moi, j'ai pas envie d'assister à un deuxième tour. J'arrive d'ailleurs pas à comprendre comment les électeurs arrivent encore à voter pour des gens qui sont mis en examen ou qui sont fortement soupçonnés de profiter du système. Pour le Front National, par exemple, qui n'a pas encore été au pouvoir, qui profite déjà des subsides de l'Europe. Fillon qui ne se cache pas de dire « oui, mais c'est un système que tout le monde utilise ». Bon, bref, les gens, on peut se retrouver au deuxième tour avec Fillon-Le Pen. Moi, j'ai vraiment pas envie d'avoir des gens malhonnêtes au deuxième tour. Donc, je vais voter forcément pour une personne qui est sûre d'être au deuxième tour. Donc je me retrouve quasiment obligé de voter pour le mieux placé. Je le déteste pas du tout. Je veux dire, l'autre soir, il m'a bien convaincu sur France 2. Donc,
c'est Emmanuel Macron.
Mais j'aurais bien aimé pouvoir voter pour un Benoît Hamon dont le programme me semblait très attractif sur de nombreux points écologiques, économiques.
Qu'est-ce qui vous fait basculer, Yves, de l'un à l'autre? Qu'est-ce qui fait que vous choisirez l'un plutôt que l'autre?
Vous parlez de Benoît Hamon et d'Emmanuel Macron?
Oui, par exemple.
Si j'ai un sondage à 26% pour Macron et un Benoît Hamon qui est en dessous de 10%, je ne vais pas prendre le risque d'avoir un deuxième tour Fillon-Le Pen.
Donc,
je vais forcément voter Macron.
Donc, pour que les choses soient claires, y compris avec le précédent Trump, y compris avec le Brexit, vous continuez, Yves, à avoir un œil tout de même sur les sondages?
Là, ouais, c'est peut-être là que j'ai tort, non?
Je sais pas, on va essayer d'en débattre. S'ils sont difficilement prescripteurs et prédictifs, ils sont aussi difficilement descriptifs, nous disent un certain nombre de sondeurs. Merci Yves pour cette première intervention. Pour vous répondre, Karine Bécard, journaliste politique à France Inter. Bonsoir Karine.
Bonsoir.
Françoise Fressos, journaliste politique au Monde. Bonsoir Françoise. Nathalie Saint-Cricq, journaliste politique à France Télévisions. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Nicolas.
Merci à toutes les trois d'être au micro de France Inter. Sur les sondages, Françoise Fressos, comment la question se pose au quotidien Le Monde et comment vous avez décidé d'y répondre pour cette présidentielle?
Alors, on a fait un partenariat, donc c'est un sondage Ipsos, c'est ce qu'on appelle une enquête électorale. Ce sont des électeurs qu'on a suivis depuis très en amont, un échantillon très important, 25 000 personnes, pour essayer d'étudier les comportements électoraux. On a aussi fait un échantillon sur les primo-votants, par exemple. Donc l'idée, c'était vraiment, sachant que le vote est de plus en plus volatile, sachant que les sondages aussi sont de plus en plus mis en question, l'idée, c'était vraiment de pouvoir mener des enquêtes très approfondies sur le comportement électoral des Français. Alors maintenant, ce que dit l'auditeur, ce qui est vrai, c'est que les sondages influencent le vote, même s'ils ne sont pas prédictifs. Pourquoi? Parce que avant d'aller voter, évidemment, vous allez voir qui peut l'emporter, qui est en difficulté, et que voilà. Alors, est-ce qu'il faut les interdire complètement? Moi, je pense que maintenant, on s'y est tellement habitué que ce serait un non-sens. En revanche, il faut exiger la qualité des sondages. Il faut savoir quel est l'échantillon, comment on travaille. Là, ce qui se fait au monde dans le cadre des sondages Ipsos, c'est qu'il y a aussi beaucoup de retours en arrière par des chercheurs qui analysent les comportements électoraux. Et donc, c'est pas des données brutes de décoffrage. Il y a vraiment un travail de recherche autour qui aide la science politique et en ce sens, je le défends fortement.
Nathalie Saint-Cricq, sur les sondages, la question d'Yves.
Oui, je crois que ce qui est important, c'est la taille, disait Françoise, la taille de l'échantillon. Il faut faire très attention à quelques sondages low cost qui peuvent exister et qui ont en vrai intérêt à sortir des choses un peu étranges tout d'un coup pour faire parler d'eux. Donc il y a la taille, donc le cas Ipsos, effectivement, avec lequel nous travaillons également, a une taille qui est assez raisonnable. Deuxièmement, à la dynamique, c'est-à-dire si dans tous les sondages, quel qu'il soit, vous voyez qu'il se passe un même phénomène, on peut être dubitatif, mais ça veut quand même dire quelque chose. Et puis, je conseillerais à l'auditeur, s'il a peur d'être perdu ou d'être berné par un sondage, de prendre toujours le même. Et puis de regarder tous les jours. Alors, il y a le rolling Ipsos qui tous les jours donne une tendance. Donc, comme ça, même si on se trompe, c'est un peu quand on se pèse. Ça peut être le mauvais point.
Mais on reste sur la même balance.
Ce que je veux dire, c'est que c'est fidèle. C'est-à-dire, même si la balance est fausse, on voit bien si on grossit ou si on maigrit, même s'il y a une légère erreur. Et je crois qu'il faut être
Qui le dites-vous, Nathalie? Karine Bécard.
Non, tout ce qui a été dit sur les sondages, évidemment, je vais pas revenir dessus. Tout ça est très juste. Ce qui est marrant dans ce qu'on entend quand on écoute l'auditeur, c'est tous ces gens sont devenus des électeurs hyper stratèges, en fait. C'est-à-dire, on n'est plus dans l'esprit de la Ve République où, normalement, au premier tour, on choisissait, et au deuxième tour, on éliminait. Donc, on pouvait avoir un candidat de cœur. Alors, c'est vrai que le candidat de cœur, cette année, est un petit peu compliqué. Mais on ne choisit plus, on n'élimine plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce Front National qui est devenu très haut, qui est aux portes du pouvoir, qui fait peur à tout le monde, enfin, en tout cas, un certain nombre de gens, une majorité de Français encore. Et donc, effectivement, on commence à imaginer les gens qu'on ne veut pas voir au second tour. On devient un électeur stratège. Donc, les sondages qui ont toujours un petit temps de retard, qui arrivent toujours à dessiner à peu près ce qui se passe, mais avec facilement 10 jours de décalage, effraient aujourd'hui les électeurs. Ils peuvent plus s'appuyer sur ça.
Et puis, il y a une critique très construite aujourd'hui de la part des hommes et des femmes politiques, critique de ces sondages. Ah, vous n'avez pas vu venir le Brexit. Ah, vous n'avez pas vu venir Trump. Ah, ils n'ont pas vu venir la défaite de l'extrême droite aux Pays-Bas. C'est ceux qui sont faibles.
Comment, c'est plutôt François Fillon.
Voilà, qu'est-ce qu'on dit justement sur les sondages chez François Fillon? Il y a eu la thèse il y a une semaine et demie, ces choses-là évoluent très vite, d'un vote caché, des électeurs ayant un peu honte de dire qu'ils allaient voter François Fillon, mais qu'ils le feront quand même le jour J.
Ils sont effectivement sur ce vote caché. Ils ont surtout trouvé un institut de sondage qu'ils adorent, et aujourd'hui, dès qu'on parle avec un élu proche de François Fillon, il vous parle forcément de Filteris, un institut canadien, qui le place effectivement en général très haut, en tout cas qualifié pour le second tour. Et donc on se détourne, c'est-à-dire on ne regarde plus les instituts de sondage qui ne l'intéressent pas et qui le placent à une place qui ne l'intéresse effectivement pas. Mais voilà, ils ont trouvé un institut qui était intéressant pour lui.
Nathalie Saint-Cricq, puis Françoise Fressoz.
J'aurais tendance à dire que sur Trump, je répète ce que dit Brice Taturier et tous les autres sondeurs à qui on passe notre temps à poser la question parce qu'on s'inquiète aussi. Ils ont considéré que sur Trump, les échantillons étaient mauvais, c'est-à-dire que c'est des gens qui étaient passés sous les radars des sondeurs, des gens qui sont allés voter, qui n'allaient pas voter d'habitude. Et alors peut-être c'est du nationalisme ou du patriotisme, c'est mieux que le nationalisme, mais de croire qu'on a quand même un savoir-faire en France sur les sondages. Et même si Fillon, les instituts l'ont vu un peu au dernier moment, au moment de la primaire, ils l'ont vu, mais ils l'ont vu parce que ça s'est passé dans les 5 derniers jours. Donc l'outil n'est pas si mauvais.
Françoise Fressoz.
Pour reprendre le cas de François Fillon, je pense qu'il s'appuie lui, sur son expérience personnelle de ce qui s'est passé à la primaire. À la primaire de la droite, souvenez-vous, on disait toujours le favori, c'est Juppé face à Sarkozy. Et puis, le troisième homme est arrivé, c'était François Fillon. Ceci dit, les sondeurs avaient quand même vu l'effet Fillon. Parce qu'en fait, il y a eu un véritable mouvement électoral en toute dernière partie de campagne. Donc, c'était pas tellement les sondages qui étaient en cause, c'était le fait que pendant des semaines, on avait dit tout est joué, peut-être un peu trop vite, parce qu'il ne faut jamais oublier non plus que le vote, ça se fait à la dernière minute, notamment parce que l'électorat est beaucoup plus fluide et beaucoup plus hésitant et volatile.
Nathalie Karine, encore un tour de
table. Une petite chose, parce que dans le temps, on disait qu'il y avait un vote honteux, c'est-à-dire que notamment, il fallait redresser Marine Le Pen, parce que les gens n'osaient pas dire ouvertement qu'ils votaient Marine Le Pen, et François Fillon surfe un peu là-dessus, le fameux vote caché, en disant il y a des gens qui n'osent pas dire qu'ils vont voter pour moi. En fait, ce que disent les instituts de sondage, c'est que maintenant, vu les méthodes, c'est-à-dire ça ne se fait n'est pas de face à face. C'est-à-dire qu'on n'a pas un enquêteur qui vous dit « Alors, vous allez voter Le Pen » et on n'ose pas le dire. Ça se fait par Internet, ça se fait par un tas de moyens qui font que finalement, la pudeur ou la honte ou la non-envie d'avouer pour qui on va voter est relativement limitée.
François Fillon, Karine Bécart et puis Fabien, tout de suite au standard, parie sur ces deux dernières semaines-là en disant « Tout va jouer, rien n'est cristallisé, tout va jouer là maintenant ».
Oui, complètement. Dès le départ, je me souviens de ses vœux au tout début du mois de janvier à la presse. On avait eu l'occasion de pouvoir discuter un petit peu avec lui. Et immédiatement, il avait théorisé le fait que ça se passerait sur les 15 derniers jours. Alors, sans doute parce qu'il n'avait peut-être pas envie de mener une grande campagne ou parce que son mois de décembre avait été difficile. Parce qu'on se souvient maintenant des démêlés judiciaires de François Fillon. Mais souvenons-nous quand même que le mois de décembre avait été quand même un petit peu compliqué. Et puis le début du mois de janvier également. Parce qu'il faut se souvenir que sur le non-cumul des mandats, c'était compliqué avec ses propres élus. Donc effectivement, il a très vite théorisé ça, aussi parce que, comme le rappelait Françoise Fressoz, ce qui a fonctionné pour lui sur la primaire, le fait que finalement il a coiffé au poteau tout le monde sur les 10 derniers jours, on va dire, ou peut-être les 20, il a adoré cette stratégie-là. Et donc je pense qu'il avait aussi envie de la reproduire.
Fabien, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci. Dans le paysage de quadripolarisation de la vie politique auquel on assiste, les deux candidats de gauche auraient dû se rassembler vu leurs énormes convergences idéologiques et même de politique pragmatique, on va dire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. J'ai essayé, à mon humble niveau, de militer pour. J'ai soutenu toutes ces dernières semaines Benoît Hamon. Et finalement, je vais réorienter mon vote vers Jean-Luc Mélenchon, ce qui n'est pas un grand gap idéologique pour moi, bien au contraire, puisque j'ai décortiqué pour ça au cours des deux dernières semaines le programme de la France Insoumise, et l'avenir en commun me paraît à la fois extrêmement fourni, étayé, y compris économiquement, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, avec un vrai programme qui tient la route et qui correspond pour ma part à mes idées pour l'avenir de ce pays dans le monde actuel.
Fabien, voilà, donc permettez-moi une question. Vous avez dit que il y avait une très forte proximité idéologique et politique entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, que vous aviez hésité entre les deux, et que finalement votre vote allait se diriger vers Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qui vous fait basculer de l'un à l'autre ?
À la fois le fait d'avoir pris conscience de l'envergure du programme de Jean-Luc Mélenchon et la précision de celui-ci, et d'autre part, effectivement, une dynamique de campagne que ne reflète pas seulement les sondages, même si cela y contribue, mais on peut sentir, y compris sur le terrain, que la prise de conscience, justement, de l'adhésion, en quelque sorte, d'une part plus grande de la population aux idées défendues par Jean-Luc Mélenchon et tous ceux qui l'entourent, me fait prendre conscience que la dynamique actuelle est plutôt favorable de ce côté-là, et surtout qu'il y a encore des chances, alors qu'il y a quelques semaines on pouvait s'y résigner, il y a encore des chances à ce qu'un candidat de gauche, en l'occurrence celui-ci, soit non seulement au deuxième tour, mais soit élu président de la République. Ça paraît à portée de main aujourd'hui, vu la dynamique extraordinaire de ces deux dernières semaines.
Et vous ne bougerez pas, Fabien, ma dernière question, vous ne bougerez pas dans ce choix. Il est fait, il est sûr, vous voterez Jean-Luc Mélenchon.
Oui, à l'heure actuelle, je l'ai tranché ce week-end, et surtout, il est certainement pas vers l'autre côté, c'est-à-dire je ne pencherai certainement pas vers Emmanuel Macron, puisque là, pour le coup, contrairement à ce que certains socialistes ont décidé de faire, le gap idéologique me paraît
insurmontable
de mon point de vue.
Merci beaucoup, Fabien, pour votre témoignage. Françoise Fressoz.
La déception que vous exprimez, qu'il n'y ait pas eu un rapprochement entre Mélenchon et Hamon, elle est tout à fait normale, dans la mesure où Hamon, dès qu'il a remporté la primaire, s'est tourné vers cette gauche. Il a essayé d'abord de faire une alliance avec les écologistes, ensuite il aurait sans doute voulu élargir aux communistes et ensuite tendre la main à Jean-Luc Mélenchon, parce qu'au fond, ils sont effectivement, ils partagent cette idée que la gauche n'a pas été suffisamment à gauche sous ce quinquennat, qu'il faut retrouver des valeurs et que donc c'est vraiment de ce côté-là que penche la balance. Après, quand vous regardez le détail du projet, il y a quand même des grosses différences, notamment sur la politique étrangère. Écoutez le discours de Mélenchon hier sur la paix, c'était pas du tout ce que défend Benoît Hamon. Regardez aussi sur l'Europe, il y a quand même des divergences. Et au fond, si l'alliance a été impossible entre les deux, c'est pour une bonne raison. C'est que Jean-Luc Mélenchon, à un moment de sa carrière politique, de sa vie politique, a décidé de rompre avec le Parti Socialiste en disant que la social-démocratie s'était terminée, et que Benoît Hamon reste quand même profondément un socialiste. Il a été rocardien au début. Ensuite, il a fait du Labonis, mais c'est quand même deux philosophies un peu différentes. Et même si il y a ce besoin d'une gauche plus radicale et plus de gauche, il y a quand même des différences de fond assez fortes.
Et puis François-Jean-Luc Mélenchon avait fait le pari qu'il siphonnerait une partie des voix du Parti socialiste, du PS. Pari accompli.
Tout à fait accompli. Et le problème du Parti Socialiste, c'est qu'il est siphonné à la fois par Emmanuel Macron et par Jean-Luc Mélenchon.
Nathalie Saint-Cricq, un mot.
Pour le coup, il y a eu du vote utile, c'est-à-dire que face à Benoît Hamon, il y a eu ceux qui ont trouvé qu'il était trop à gauche et qui sont partis vers Macron, ceux qui ont trouvé qu'il était trop à droite et qui vont chez Jean-Luc Mélenchon. Et comme le disait le premier auditeur Yves et Fabien, eh bien finalement, Benoît Hamon est un produit qui n'est pas suffisamment pur et parfait et qui ne correspond à rien, d'où le double siphonnage. Et les auditeurs votent utile en se disant Mélenchon, il peut nous faire gagner. Et Benoît Hamon, de toute façon, vu sa place, il ne fera rien gagner du tout.
Karine Bécard.
Mais ce qui est marrant, c'est qu'on a un Benoît Hamon qui est dans l'incapacité de réussir à démontrer qu'il raconte pas du tout la même chose que Jean-Luc Mélenchon, notamment sur ce que vous avez souligné, c'est-à-dire sa politique européenne. On a quand même un Jean-Luc Mélenchon qui dit en gros qu'il faut sortir de l'Europe. Il est inaudible sur ça, Benoît Hamon. Il n'arrive pas à le faire entendre. Et puis notamment sur Poutine, la Syrie. Voilà, je rappelle quand même que mardi, le dernier débat télévisé qu'on a eu le 4 avril, il y en a un seul qui arrive à nous parler déjà de la Syrie, c'est Benoît Hamon. Et évidemment que Jean-Luc Mélenchon n'en avait pas du tout envie. Ce qui est rigolo aussi, c'est que Benoît Hamon n'a pas du tout réussi, alors que ça a été un frondeur, à effacer le fait qu'il était le candidat du PS. Il n'a pas réussi à avoir cet acte d'autorité qui aurait permis de montrer que soit il devenait vraiment le patron et donc c'était un autre PS qu'il réussissait désormais à incarner. Voilà, il est resté coincé par rapport à ces choses-là.
Nathalie,
parce qu'il veut perdre ni à gauche ni à droite. Donc quand on veut perdre nulle part, on perd partout.
Et parce qu'il a fait une stratégie de conclure un pacte de non-agression avec Jean-Luc Mélenchon qui lui siphonnait la semaine dernière tout son électorat.
Tout à qu'il n'a pas respecté.
Alors avant de donner la parole à Carlo, je voudrais vous lire le courrier électronique que nous envoie Charlotte. Je suis militante socialiste dans les Bouches-du-Rhône depuis l'an 2000, ligne Valls. Je ne peux pas voter Hamon par rapport à son programme et certaines valeurs qu'il défend. J'étais bien décidée à voter Macron jusqu'à ce qu'il vienne à Marseille. Aller voir Estrosi plutôt que le camp des Mille ou autre visite plus symbolique m'a beaucoup déçue. Par ailleurs, dans les Bouches-du-Rhône, nous pouvons constater le gap, nous dit toujours Charlotte, entre son discours, celui d'Emmanuel Macron, et la réalité quand nous regardons les personnes que Macron fait rentrer dans son premier ou deuxième cercle. À 15 jours du premier tour, je ne sais plus du tout pour qui je vais voter. Personne ne semble représenter mes convictions. Je suis perdu et envisage pour la première fois depuis mes 18 ans de ne pas aller voter. Je pense que ce témoignage de Charlotte est emblématique et qu'elle n'est absolument pas la seule aujourd'hui à être totalement perdue. Françoise Fressoz.
Oui, parce que d'une certaine façon, c'est vrai que cette aile du Parti Socialiste que Charlotte, dans laquelle Charlotte se reconnaissait, elle est orpheline. Valls a perdu la primaire. Il l'a perdu parce que Emmanuel Macron s'était présenté et avait présenté sa candidature et l'a empêché pratiquement d'avoir un bon score. Et Emmanuel Macron, il revendique d'être en dehors du Parti Socialiste. Et stratégiquement, ces dernières semaines, il avait plutôt intérêt à aller voir du côté de la droite plutôt que de récupérer et de faire de la place à tous les socialistes qui ne savaient plus où aller. Donc, il y a cette rencontre avec Estrosi qui, je comprends, puisse blesser une partie des socialistes, une militante socialiste. En même temps, il faut se souvenir aussi que les militants socialistes se sont retirés dans la région PACA pour permettre l'élection de Christian Estrosi au nom de la lutte contre le Front National. Donc, on voit bien que le paysage politique est en train de se recomposer, que ça pose d'énormes problèmes parce que beaucoup ne se reconnaissent plus dans l'offre à laquelle ils étaient habitués et que ce sera sans doute le choix final. Ça sera sans doute un compromis bancal avec vos convictions et les candidats qui se présentent.
Nathalie Saint-Cricq.
Ça explique aussi peut-être que les gens qui sont sûrs de voter Macron soient pas assez nombreux pour lui, c'est-à-dire qu'on est à des taux de 60-64% de gens qui sont sûrs de pas changer d'avis, et ça ressemble à une sorte de vote Macron par défaut, enfin du moins sans enthousiasme, et ce qui a l'air d'être un petit peu le cas d'un certain nombre de...
Karine, vous voulez dire un mot?
Juste un mot, oui. Enfin, je trouve qu'on entend vraiment, enfin dans la lecture, pardon,
de ce
courrier électronique, c'est vraiment on entend à quel point on est en train de parler d'une dynamique baissière, enfin d'une perte de dynamique chez Macron. C'est ça qu'on entend aussi. Hein. Mm-hmm. C'est il y a de la déception sur cette stratégie qui consistait à rassembler tout le monde, finalement, ça marche pas si bien que ça.
Carlos, bonsoir, vous nous appelez de Besançon.
Oui, bonsoir, bonsoir à tout le monde.
Nous vous écoutons.
Studio.
Ouais, on vous entend.
Donc, ben, moi, je suis un militant MoDem, disons Canal historique, hein, depuis 2007, donc, et plutôt de tendance extrême centre, on va dire.
D'accord. Donc, pile au milieu.
Voilà, pile au milieu, et puis un vrai centre bien centré.
Ok.
Aujourd'hui, j'ai un regret à l'entente des médias et de tous les candidats en tant que tel. Hein, donc, j'ai l'impression qu'on a fait notre deuil sur le fait que Marine Le Pen serait au deuxième tour. Et moi, ça me choque, d'une part, parce que effectivement, donc, quelle image on donnerait au monde dans un monde aujourd'hui, on a Trump, on a le Brexit, on a plein d'éléments qui font fait de la montée des extrêmes droites un peu partout. Donc, je pense que la France, avec notre histoire, avec notre vrai cœur de France, on devrait montrer l'exemple et dire voilà, on va contre ça, on refuse. Et voilà, qu'on sort Marine Le Pen du deuxième tour.
L'idée, Carlos, ce que vous ressentez, c'est que il y a un consensus au fond sur la présence de Marine Le Pen au second tour, c'est ça, hein.
Voilà, que ce soit le discours des médias ou que ce soit les sondages ou que ce soit les candidats eux-mêmes, il n'y a plus personne qui se bat aujourd'hui pour dire non, on veut pas ça. Moi, en fait, je suis binational, en fait, je suis d'origine mexicaine et français, donc je suis français à 100%, je suis mexicain à 100%, donc j'ai la chance de vivre à 200%. Et aujourd'hui, mon côté français, est mal parce que moi, j'ai compris que j'étais français,
Carlos,
à 21 avril 2002, où j'ai pleuré, mais vraiment de tristesse profonde parce que c'était quelque part mon pari pendant laquelle j'avais vécu très longtemps.
Le centriste, Carlos, le centriste Canal historique que vous êtes, va voter, puisque vous êtes MoDem, va voter pour Emmanuel Macron?
Oui, tout à fait. Je me suis battu aujourd'hui pour que, au sein du MoDem, on ait cette loyauté par rapport à nos idées. C'est-à-dire que François Bayrou a fait sortir le centre de tenter d'être une minorité visible de la droite, donc face à Sarkozy, qui aujourd'hui, Sarkozy, c'était quelque chose qu'il a poussé à créer le MoDem. Mmh. Aujourd'hui, Emmanuel Macron fait la même démarche du côté de la gauche. Donc forcément, ces deux forces-là convergent. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais dire, c'est qu'effectivement, pour clarifier le discours auprès des électeurs potentiels, allez voter déjà. Donc l'abstention, c'est le meilleur moyen de faire barrage au Front National. Allez voter, quoi qu'il arrive. Donc cherchez pas à être stratège. Allez voter déjà. Après, dire que la seule véritable voix aujourd'hui qui est différente par rapport à tout le reste et nouvelle, c'est celle d'Emmanuel Macron, parce qu'il va vraiment au-delà du clivage gauche-droite, qui ont montré toutes leurs limites. Regardez l'état des Républicains aujourd'hui, regardez l'état du PS, donc ils se sont autodétruits. Donc par les affaires
bien
à droite,
bien compris, Carlos.
À gauche, par la primaire qui était un hold-up par rapport à.
Ne nous faites pas une profession de foi, Carlos. Ne nous faites pas une profession de foi, Emmanuel Macron, parce que ça va poser des problèmes de temps de parole absolument délirants. D'ailleurs, on va en dire un mot. Qui veut réagir à ce que disait Carlos, Françoise Fressoz?
Je comprends bien votre préoccupation sur la présence de Marine Le Pen, mais au fond, d'autres candidats que Emmanuel Macron peuvent prétendre essayer de réduire Marine Le Pen. Le discours de Mélenchon hier à Marseille, c'était quand même une tentative d'essayer de prendre de l'électorat auprès de Marine Le Pen. Donc, la question elle est difficile et on ne peut pas la résumer à un vote utile, il faut se mettre derrière un seul candidat contre Marine Le Pen parce que c'est quelque chose qui est difficilement audible. On sent quand même que cette élection, elle est dominée par une demande de radicalité, que Marine Le Pen n'est pas la seule à la porter et que, donc, voilà, faire résumer une élection à un candidat contre Marine Le Pen, je pense que ça serait réducteur pour le premier tour.
Et sur le fait qu'il y a consensus quant à la présence de Marine Le Pen au second tour?
Je pense que le consensus est dû au fait qu'elle n'a pas arrêté de monter pendant tout le quinquennat à un point qui fait qu'elle est qualifiée, en tout cas elle a de grandes chances de se qualifier pour le deuxième tour, et que crier au loup, maintenant que le mal est fait, voilà.
On peut commencer Karine à se Descartes. Demander si elle va si bien que ça, on commence à fatiguer aussi. Si elle va si bien que ça, sa candidature, quand même. Moi, je trouve que, globalement, sa campagne, elle a été ultra brouillonne depuis le départ. Alors, c'est ce qu'elle nous avait fait aussi en 2012, hein, une campagne un peu inversée. Elle traite pas des bons sujets au bon moment, si je résume ça comme ça. Elle a rien imprimé, c'est-à-dire que, globalement, elle arrivait déjà avec sa sortie de l'euro, et puis elle arrivait avec sa préférence nationale. On en est toujours là. Qu'est-ce qu'elle a réussi à infiltrer d'autres comme idée de sujet? Rien d'autre. Dans les débats, elle s'est montrée plutôt à vouloir être être super lisse, très fade. On l'a connu sur France 2, mots croisés, où elle savait vraiment débattre, taper, faire peur. Là, c'est plus tout à fait elle. Et puis, alors là, le poteau rose, dimanche, hier, où elle nous sort un truc...
Sur le Veldiv.
Sur le Veldiv. Vraiment, la polémique. On a le sentiment vraiment que, justement, elle sent elle-même que sa campagne ne prend pas et qu'elle est obligée de faire un énorme dérapage version papa. Donc, est-ce qu'elle sera là au second tour, finalement? C'est vrai qu'on l'a peut-être vendue un peu vite.
Nathalie Saint-Cric, Françoise Fressoz.
Écoutez, je pense qu'effectivement, il y a du côté de François Fillon une volonté de pas trop agresser Marine Le Pen dans le discours public. C'est-à-dire, c'est logique, hein, puisqu'ils se disputent non pas les mêmes électeurs, mais un petit segment. J'ai l'impression qu'Emmanuel Macron fait le boulot. Et peut-être aussi qu'on s'est tous, non pas habitués, mais on poussait des cris d'orfraie. Certains poussaient des cris d'orfraie quand elle était à 19-20. Mmh. Maintenant, c'est monté gentiment à 24, 25, 26, comme si c'était une donnée de base. On s'est installé dans la tripartition et avec un gros Front National. Mais je pense pas que ce soit les. Comment dire, c'est pas le thermomètre qu'il faut casser, c'est l'état du pays. Mmh. Donc, c'est sûrement à reprendre sur le terrain, tout ça.
Alors, à 19h48, il nous reste 12 minutes pour cette question d'Alexandre. J'ai coupé la parole à Carlos au nom des temps de parole. Alexandre nous pose la question suivante. Comment se fait le chronométrage du temps de parole pour tous les candidats? Nathalie Saint-Cric, vous avez 12 minutes.
Et on refait
un téléphone sonne demain pour tout comprendre.
Règles, les nouvelles règles du CSA, dans les 15 jours qui viennent, c'est-à-dire jusqu'à l'élection, on est contraint de donner exactement à la seconde près le même temps de parole ou temps d'antenne. Alors, temps de parole, c'est quand ils parlent, temps d'antenne, c'est quand on les voit, à tous les candidats. C'est-à-dire que Cheminade égale Fillon, égale Asselineau, égale Lassalle, égale Hamon, égale Mélenchon, égale Macron,
mais
égale tout le monde.
Le diable est dans les détails, parce que et ça, on peut dire que c'est un principe républicain.
On peut dire que c'est un principe, d'accord. D'égalité. Très bien. Alors, je rajoute à ça que ça doit être dans les mêmes tranches horaires. C'est-à-dire qu'en gros, si vous faites un 20h avec François Fillon, qui fait 2 minutes, vous ne pouvez pas compenser avec Asselineau en le mettant à télématin ou à 4h du matin. Alors, c'est vrai que c'est assez juste sur le fond de se dire qu'on peut pas compenser sans arrêt en faisant passer un son de la salle à 3h du matin quand personne écoute et de mettre aux 20h les gros candidats. Mais là, on en arrive à une aberration absolue. C'est qu'en gros, si on veut traiter des 3-4 candidats importants, y compris sur leur fond, c'est-à-dire, par exemple, leur position vis-à-vis de la Syrie, vis-à-vis de Poutine, on est obligé de se prendre 2 minutes 30 de Dupont-Aignan ou de n'importe qui. En gros, on fait du, c'est comme la musique au maître, quoi. On se dit, on prend, alors on essaie de faire des trucs pas trop nuls, mais on est obligé de faire du chiffre. Mmh. Donc, d'avoir 2,30 d'Asselineau pour pouvoir avoir le droit de faire 2,30 de Macron, de Le Pen, d'Hamon ou de Mélenchon. Ce qui est quand même assez compliqué et qui
c'est
peut donner des choses très très étranges à l'antenne.
Non mais c'est
Karine
plutôt que
Bécart.
Ça fonctionne très bien sur tout ce qui est radio ou chaîne Tout Info, parce qu'effectivement ils ont un tel besoin de consommer qu'ils ont toujours une place pour faire passer Asselineau, Dupont-Aignan et les autres. C'est beaucoup plus compliqué pour ma maison, une radio nationale qui a effectivement quelques rendez-vous comme ça fixe
et limité. En 30 minutes on peut pas faire passer
et
tout le monde.
Et donc parfois on se retrouve du coup effectivement à faire parler Jean la salle, alors qu'il se trouve que François Fillon ou un autre a fait polémique ou dit une chose sur laquelle on a vraiment
envie. Et eux-mêmes, ils n'en peuvent plus, parce que nous, on est obligés, pour faire des choses intéressantes, de leur téléphoner, de proposer à Philippe Poutou d'aller passer 3 jours avec lui pour avoir du reportage, des trucs, et il fait des médias, donc on ne peut pas passer 3 jours avec lui, parce qu'ils n'ont plus rien à nous dire. Donc on tourne en rond, quoi.
Donc vive la presse écrite, en fait.
Je vous admire et je vous plains, parce que je trouve que c'est très difficile quand on est journaliste d'avoir ça en tête, alors que on a plutôt nous tendance à réagir à chaud ou à hiérarchiser de façon libre notre information, et je pense que ça doit être une torture pour vous.
Il faut bien qu'il reste un privilège à la presse écrite, hein, Françoise Fressoz.
Merci.
On repart au standard. Gilbert est ahuri par ce qu'il a entendu au téléphone sonne jusqu'à présent. Bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons, Gilbert.
Eh bien écoutez, moi je suis un peu étonné d'abord d'être soumis en permanence au sondage comme ça, et puis d'entendre des gens qui se laissent influencer par les sondages. Parce que moi, à mon avis, ce que proposent les 11 candidats, ils ont un programme chacun, et je vois pas pourquoi on serait influencé par les sondages. Il faut être citoyen et aller voir ce que chacun propose.
Vous trouvez ça délirant, Gilbert ?
Oui, tout à fait, parce qu'on est soumis tous les jours au sondage, mais je crois qu'il faut rester quand même à avoir la tête lucide et puis réfléchir à ce que chacun propose.
Permettez-moi une question, Gilbert. Vous fermez totalement vos oreilles et vos yeux dès qu'on parle d'un sondage. Vous éteignez votre radio, votre télé?
Non, j'éteins pas France Inter.
Alors, on parle très peu. On a une doctrine à France Inter. Hein. Voilà, on parle très peu, en fait, des sondages.
Non, mais j'écoute les radios, je regarde la télévision, je lis les journaux, mais tous les jours, on est confronté aux sondages. Mais c'est pas les sondages qui vont influencer mon vote. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce que moi, je comprends pas qu'on puisse être influencé par les sondages qui sont au quotidien et puis qui évoluent en fonction d'un propos de tel ou tel.
Et donc ça ne rentre absolument pas en ligne de compte dans votre choix. Et vous avez choisi là justement, Gilbert?
Alors j'ai une idée, mais pour l'instant j'attends les derniers jours là de la campagne. Mais c'est pas les sondages qui vont me faire
changer. Bien sûr. Mais ça peut bouger.
Des différents candidats.
Bien compris. Ça peut bouger encore, Gilbert?
Ça peut bouger encore d'ici 5-6 jours. Après, ça sera arrêté.
Allez, bonne fin de campagne, Gilbert. Et merci de nous avoir téléphoné. Hélène, bonsoir.
Ah bon, il me prend pas.
Mais oui, Hélène, je vous écoute. Vous nous appelez de Tours.
Oui, merci pour toutes vos émissions qui sont toujours d'une grande qualité.
Merci à vous.
Je me permets de vous contacter. En fait, moi, j'avais une remarque. Je me suis posé la question, est-ce que les primaires en vue des élections présidentielles n'ont pas permis de faire élire des candidats qui représentaient des minorités au niveau de leur parti politique et qui ne représentaient pas au final la majorité des Français? Moi, je me dis plutôt de gauche et aujourd'hui, je me reconnais pas du tout dans les idées de Benoît Hamon, contrairement à Hollande qui était plus fédérateur et plus rassembleur.
Merci Hélène pour cette question. C'est vrai qu'il va falloir faire le bilan de la primaire de gauche comme de celle du parti Les Républicains. Si les deux partis sont éliminés au soir du premier tour, il faudra peut-être se poser un certain nombre de questions là-dessus comme sur d'autres sujets. Françoise Fressoz.
Il y a eu deux primaires au Parti Socialiste qui n'ont pas du tout donné le même résultat. C'est étonnant d'ailleurs. Il y a la première primaire, celle de François Hollande, ou qui met candidat François Hollande. François Hollande, il a la particularité d'être le plus centré de tous les candidats. Et puis, il y a la deuxième primaire qui élit Benoît Hamon, alors qu'on aurait pu penser que Manuel Valls pouvait représenter une majorité plus forte du Parti Socialiste. Donc, est-ce que c'est la primaire qui doit être mise en cause ou c'est cette primaire-là qui a dysfonctionné c'est une vraie question et j'ai pas la réponse. Moi.
Nathalie Saint-Cric, sur le fait que ce soit les plus convaincus
les plus
de
radicaux.
Chaque camp,
on a dit que c'était les plus radicaux
qui vont voter.
Voilà, peut-être est-ce dû au fait que finalement la base, même si on a dit qu'il y avait beaucoup de votants, 4 millions et tout, ça représente pas quand même énormément de gens par rapport à la somme de l'électorat ou des électeurs français. Peut-être effectivement que le fait de faire une campagne un peu caricaturale a marché, mais je pense qu'aussi la dame qui téléphone se dit qui est de Tours, j'aime beaucoup cette ville. Hélène dit qu'elle se sent de gauche, mais elle n'est pas encartée, j'imagine. Donc peut-être aussi, est-ce que la faiblesse des partis politiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables d'entraîner plus de gens, de manière à ce que le vote qui s'exprime par la primaire représente une masse un peu plus importante de gens de gauche. C'est-à-dire si on avait eu des partis plus importants et un vote plus important, plus large, le candidat aurait représenté non pas ce qui est de plus radical, mais quelque chose qui représente plus globalement la France.
Karine Bécard.
Mais globalement, je trouve que les primaires ont posé, en tout cas cette fois-ci, plein de problèmes comme ça. Il y a celui donc que Hélène souligne, il y en a un autre, c'est on a tellement parlé du fond des programmes de chacun des candidats que finalement pendant la vraie campagne là, on est quasiment plus capable d'en parler, on est quasiment jamais sur le fond. J'ai le sentiment là aussi que c'est lié à cette très longue à droite en tout cas campagne des primaires et c'est le cas aussi à gauche. On a beaucoup parlé de fond et là on a stoppé, il y a quasiment rien qui soit sorti de cette campagne.
C'est vrai que les deux primaires ont été assez riches en termes de débats politiques, des vrais débats sur le travail, quand on pense à la dernière primaire en date, sur la place du travail, les formes du travail,
le revenu universel, on a tiré ça dans tous les sens, et là, finalement, on parle quasiment plus de rien.
Annie est au standard de France Inter. Annie, bonsoir, vous nous appelez de Grasse.
Je vous appelle de la région PACA.
Vous attendez depuis 24 minutes au standard, je vous présente mes excuses.
Non, mais moi moi, en clair, je veux juste vous dire une chose. Ce sont pas les sondages, ni les journalistes, ni tout ça qui vont me faire voter, qui vont me faire voter pour un candidat. Mmh. Je me suis renseignée, j'ai fait comme l'auditeur précédent. Je me suis renseignée, je me suis informée. Je lis les journaux, j'écoute la radio, je regarde la télévision. J'ai été à certains meetings, pas les pires. Et donc quelque part. Il n'y a rien qui fera changer mes convictions.
Ça y est, c'est décidé pour vous.
Honnête, et puis qui nous fasse rêver, même si c'est difficile à passer. Mmh. Donc mon vote ne changera pas, je voterai M. Hamon.
D'accord.
Et beaucoup de gens qui sont autour de moi feront comme moi. Mais en même temps, c'est pas... ni les journalistes, ni personne.
Alors, sortez-nous de là, Annie. On n'a absolument aucune prétention à faire voter qui que ce soit pour qui que ce soit. On essaye, comme vous l'avez dit, d'informer de la manière la plus complète possible. À charge ensuite aux citoyens de faire ce qu'ils veulent le jour de l'élection. Merci en tout cas, Annie, pour votre intervention. Qui veut dire un mot, Nathalie Saint-Cric?
Non, je veux juste dire quelque chose sur les instituts de sondage, parce que souvent, on entend une manipulation par les instituts de sondage, encore Nicolas Dupont-Aignan, en disant... Il faut savoir que la part des sondages politiques dans un institut de sondage, c'est 4 ou 5%, c'est une vitrine. Et qu'ils ont... Ils ne sont pas manipulés. Ils ont intérêt à être honnêtes parce qu'après, ils travaillent pour des grandes marques, pour un certain nombre de choses. Donc, il n'y a aucune main cachée d'obscurs sondeurs qui voudraient manipuler l'opinion. Je pense qu'il faut juste un peu le préciser parce qu'un certain nombre de candidats évoquent ça dans leur meeting.
Oui, et main dans la main avec les journalistes. Il y aurait un agenda caché entre les sondeurs, les journalistes, etc. Un cabinet rose dans lequel on ferait les choses avec nos alambics. Merci à toutes les trois. Karine Bécard, France Inter, Françoise Fressoz, Le Monde. Nathalie Saint-Cric, France Télévisions, vous avez un gros chronomètre là pour les temps de parole.
J'ai un énorme chronomètre, j'en rêve la nuit, je suis comme le lapin dans Alice au Pays des Merveilles. Et je suis toujours...
Prêtez-moi votre gros chronomètre. Allez, bonne soirée à tous, merci amis auditeurs.